Laudetur Jesus Christus.
Le conflit au Proche-Orient entre dans sa deuxième semaine. La journée d'hier fut la plus sanglante. En 7 jours, près de 200 Palestiniens ont été tués, dont 58 enfants. 10 morts du côté israélien, dont un enfant. Nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Une messe pour la Birmanie célébrée hier à Saint-Pierre par le pape. Comment ce geste de solidarité a-t-il été reçu sur place? Reportage à suivre. Le Chili va se doter d'une nouvelle constitution et ceux qui l'écriront ont été élus ce week-end. La population a choisi plus de candidats indépendants, de femmes et de représentants de la communauté indigène. Enfin, une conférence de soutien à la transition démocratique au Soudan se tient aujourd'hui à Paris. La France s'engage à aider le pays à alléger le fardeau de sa dette.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Où mèneront la haine et la vengeance? Pensons-nous vraiment que nous pouvons construire la paix en détruisant l'autre? Les questions sont du pape François hier après la prière du Regina Coeli à propos de la situation chaotique au Proche-Orient. La journée d'hier fut sanglante. Plus de 40 morts à Gaza sous les frappes d'Israël. De nombreux innocents sont morts, a dénoncé François. Parmi eux se trouvent des enfants. En effet, depuis lundi, près de 200 Palestiniens sont morts, dont 58 enfants. Et ce lundi, les frappes continuent sur la bande palestinienne. À Jérusalem, Valérie Ferron.
Depuis une semaine, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza vivent dans la terreur permanente des bombardements israéliens qui pilonnent de jour comme de nuit toute l'infrastructure civile et continuent de cibler maisons et grands immeubles dans les quartiers résidentiels, détruisant ainsi commerces, banques, centres médicaux, bureaux d'associations et de médias locaux, arabes et occidentaux pour empêcher la diffusion des faits. Le réseau internet de la bande de Gaza a été lui aussi endommagé, compliquant la communication des Gazaouis avec l'extérieur. Ce qui n'empêche pas les réseaux sociaux d'être inondés de témoignages sur ce qui se passe réellement sur le terrain. La jeunesse palestinienne à Gaza, en Cisjordanie et en Israël étant très active dans cette guerre médiatique. Certains bombardements israéliens ont décimé des familles entières, dont 16 par des missiles ayant visé directement leur maison. Plus de 38 000 personnes sont actuellement accueillies dans une quarantaine d'écoles de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, alors que plus de 800 bâtiments et maisons ont été détruits et des milliers d'autres partiellement endommagés. Les réseaux d'eau et d'électricité étant aussi systématiquement ciblés, plus de 500 000 personnes actuellement ont des problèmes à se procurer de l'eau potable. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et après le bombardement par Israël des locaux de la télévision Al Jazeera et de l'agence de presse américaine AP, Reporters sans frontières a saisi hier la Cour pénale internationale de justice, considérant que cela peut être un crime de guerre. Enfin, toujours sur ce conflit au Proche-Orient, coup de fil ce matin entre le pape et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier réclame des sanctions de la communauté internationale contre Israël. Dans la basilique Saint-Pierre, le souverain pontife a présidé hier une messe pour les fidèles de Birmanie, pays bouleversé par un coup d'État et des violences depuis le 1er février. Les ressortissants birmans de Rome et des environs étaient conviés à cette célébration autour du pape qui s'était rendu dans le pays en 2017 pour l'encourager sur la voie de la démocratie. Dans son homélie, François est revenu sur le verbe « garder » en développant sa réflexion autour de trois axes, garder la foi, garder l'unité et garder la vérité. Alors comment ce geste de solidarité a-t-il été accueilli en Birmanie? Le reportage de notre correspondante Juliette Verlin.
Dans sa clinique de la ville de Mykhtina, sœur Anne-Rose Noutang a pris une pause entre deux patients pour assister à la messe donnée par le pape.
On m'a dit qu'à cette occasion, ma biographie serait distribuée. Je souhaite exprimer ma gratitude au pape François et aux citoyens de Rome au nom de la Birmanie.
Depuis qu'elle s'est agenouillée devant la police pour demander l'arrêt des combats début mars, sa photo a fait le tour du monde. Aujourd'hui, les manifestations en Birmanie sont devenues plus rares devant la violence de la répression et certains jeunes de la communauté de sœur Anne-Rose ont rejoint les armées ethniques rebelles pour espérer vaincre l'armée birmane par la voie des armes.
Je suis fière d'eux et je respecte le choix de ces jeunes qui vont risquer leur vie pour protéger le peuple et se battre pour la liberté. Prenez soin de vous, que votre mission réussisse. Que Dieu vous bénisse et vous protège.
Sœur Anne-Rose Noutang continue son travail et espère que les dirigeants religieux de toute confession continueront eux aussi à soutenir la Birmanie.
Le pape François nomme un nouvel évêque dans le diocèse de Hong Kong, le père Stéphane Chow Soyan. Le père Soyan est né à Hong Kong en 1959. Depuis le 1er janvier 2018 et jusqu'à aujourd'hui, il était provincial de la Compagnie de Jésus en Chine. Plus d'informations sur notre site internet. C'est la plus grosse tempête à frapper l'ouest de l'Inde depuis 30 ans. Toktaé est en passe de s'abattre sur le pays, accompagné de vents à plus de 160 km/h. Déjà, 6 personnes sont mortes dans les pluies torrentielles qui précèdent le cyclone. Il devrait frapper l'Inde ce soir. La ville de Bombay dans l'ouest est déjà inondée et les opérations de secours sont rendues plus difficiles par la pandémie. Ce week-end au Chili, la population votait pour élire les personnes qui rédigeront la nouvelle constitution. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un tel scrutin était organisé puisqu'il est directement issu des manifestations massives qui ont secoué le Chili en 2019. Plus de femmes, plus d'indépendants et la prise en compte des peuples indigènes. Les Chiliens réclamaient une meilleure représentativité pour l'écriture de cette nouvelle constitution et ils l'ont obtenue ce week-end. À Santiago du Chili, les précisions de Naïla de Rouané.
Les Chiliens ont réussi leur pari puisque sur les 155 sièges de l'Assemblée constituante, près d'un tiers sera occupé par des candidats indépendants de la société civile. Les partis politiques prendront quand même part à la rédaction de la nouvelle constitution, mais dans une moindre mesure. La coalition de droite unie sur une même liste a remporté presque 40 sièges et les partis du centre et de la gauche plus éparpillés occuperont un tiers de l'Assemblée. L'opposition et les indépendants seront donc en position de force et des coalitions pourraient être envisagées, car pour l'écriture du nouveau texte, les décisions devront être prises à une majorité des deux tiers des voix. Les grandes gagnantes de ce scrutin, ce sont surtout les femmes, puisque grâce à la parité, elles occupent 50% des sièges et c'est une première mondiale. Quant aux peuples indigènes, qui représentent environ 13% de la population du pays, 17 sièges leur sont réservés. Les rédacteurs de la nouvelle constitution disposent d'un an pour écrire le nouveau texte. L'année prochaine, il sera soumis à un nouveau vote par référendum. S'il est approuvé, le Chili abandonne donnera alors définitivement la constitution actuelle, celle qui a été écrite sous la dictature de Pinochet. À Santiago du Chili, Naïla de Rouané pour Radio Vatican.
La France réunit demain à Paris une trentaine de dirigeants africains et européens et des institutions multilatérales pour un sommet sur les économies africaines. Le but étant d'aider les pays d'Afrique à s'extraire du piège de la dette. Et à la veille de cette réunion, une conférence de soutien à la transition démocratique au Soudan se tient aujourd'hui dans la capitale française. Paris, qui ce matin a clairement affiché sa volonté d'aider Khartoum, Adélaïde Patrignani.
Oui Marine, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé ce matin, la France va aider le Soudan à solder son arriéré de dette avec le FMI en lui prêtant 1,5 milliard de dollars, car ce sont bien des questions financières qui sont au cœur de la réunion d'aujourd'hui. Depuis le début de son mandat il y a 2 ans après la révolution, Abdallah Hamdok s'est déjà acquitté de 1,15 milliard de dollars auprès de la Banque mondiale, idem pour des arriérés remboursés à la Banque africaine de développement. Reste donc maintenant à se défaire de la dette contractée auprès du Club de Paris, son principal créancier, auquel le pays doit 38% des 60 milliards de dollars de sa dette extérieure. Mais selon des experts, ce forum international est aussi l'occasion de renforcer l'ancrage occidental et notamment français au Soudan. Ce vaste pays aux ressources pétrolières forme en effet un intéressant marché aux yeux des entreprises et un territoire à stabiliser aux portes de la poudrière sahélienne. Mais ces tractations économiques risquent de laisser de côté la population, c'est ce que l'on redoute au Soudan où les urgences assombrissent le tableau d'une transition pourtant réussie. Pénurie d'eau potable et d'essence, coupure d'électricité, coronavirus et invasion de criquets sur la mer Rouge continuent de plomber le quotidien des habitants.
Merci Adélaïde Patrignani. Au moins 10 personnes tuées hier dans l'est de la RDC par les ADF, les forces démocratiques alliées, des djihadistes liés à l'organisation de l'État islamique qui sème la terreur depuis des années dans l'est congolais. Ils sont accusés du massacre d'au moins 1000 personnes ces 18 derniers mois. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma affronte aujourd'hui la justice. Il est notamment jugé pour corruption dans une affaire vieille de plus de 20 ans, des pots de vin avec le groupe français Thales. En tout, Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et rackets liés à l'achat de matériel militaire auprès de sociétés d'armement européennes lorsqu'il était vice-président en 1999. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie d'Hélène Détombe. Très bel après-midi.